صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours en train de parler des invocations que le musulman doit faire d'une manière générale dans sa journée. La dernière fois, on a parlé de Ad'iya Ma'thura, des invocations apportées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de les dire. Après, on a parlé de certaines demandes de protection. On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait souvent à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger de plusieurs choses. Allahumma inni a'udu bika min al-bukhl, de l'avarice. Allahumma inni a'udu bika min al-jubl, de la lâcheté. Allahumma inni a'udu bika min an-uradda ila ardhani al-umr, le fait de vivre jusqu'à devenir dépendant des autres. Allahumma inni a'udu bika min fitnati ad-dunya, ya Allah protège-moi des fitnas de ce bas monde. Allahumma inni a'udu bika min adhab al-qabr, il demandait à Allah de le protéger du châtiment de la tombe. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de le protéger de la dette, de devenir quelqu'un qui est endetté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'endettait pas que par vraiment nécessité. Parce que la dette peut être un fardeau pour l'homme. C'est pour ça que le musulman doit vivre selon ses moyens et ne pas s'endetter pour vivre au-delà de ses moyens. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'endetter, qui vont prendre une dette, et cette dette-là va être, pourquoi ils la prennent? Pour des choses qui ne sont pas nécessaires dans la vie. Pour des choses qui ne sont pas vraiment dans la nécessité, des choses obligatoires dans la vie, mais ils veulent vivre dans le confort alors que leur salaire ne leur permet pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'endetter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah de le protéger d'être ghalabatul dayn, c'est-à-dire que la dette devient un fardeau écrasant. La dette, quand elle devient un fardeau, tu as honte de sortir, tu as honte de rencontrer les gens parce que tu leur dois de l'argent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger. Et aujourd'hui on va voir d'autres invocations qui sont à des occasions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a conseillé, quand on entend l'adhan, de faire une invocation. Donc, yustahabu lahu jawab al-mu'adhin. Quand quelqu'un est en train de faire l'adhan, il est recommandé de répondre à l'adhan. Comment tu réponds? Quand il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah. Tu suis le mu'adhin. Quand il dit Hayya ala salat, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Hayya ala al-falah, La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et tu suis comme ça al-mu'adhin. Même si tu es en train de lire le Coran, c'est mieux de fermer al-mus'haf et de rester avec al-adhan. Parce que il est préférable d'agir selon les actions du moment. D'accord? L'adhan, ça se fait que 5 fois par jour. Alors, le Coran, tu as le temps pour le lire après. Donc, quand il y a l'adhan, même si tu es en train de lire le Coran ou de parler avec quelqu'un, tu dis, maintenant c'est l'adhan, on va se taire et on va faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, c'est ajib al-adhan. An yujiba al-mu'adhin. Al-mu'adhin dit Allahu Akbar, toi tu dis Allahu Akbar. Tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Tu suis mu'adhin comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Ça, c'est une recommandation forte. Fa'ida kharajta ila al-masjid, faqul. Donc, après l'adhan, on a l'invocation. Allahumma rabb hadihi al-da'wati al-tamma. Quand tu entends l'adhan et après l'adhan, tu dis Allahumma rabb hadihi al-da'wati al-tamma. Al-da'wati al-tamma, c'est l'adhan qui vient, cet appel parfait. وصلاه القائمه لا خير كي فافنير اتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته donne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-wasilata wal-fadila. Al-wasila wal-fadila, c'est un degré au paradis et un statut le jour du jugement dernier, un statut particulier qu'Allah ne donnera qu'à une seule personne au monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam espère que ça soit lui, et ça serait lui inshallah. Et toi en tant que musulman, tu demandes à Allah, donne al-wasila wal-fadila, ce statut particulier, que le statut de al-wasila wal-fadila, l'intercession, donne-le à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et inshallah ça serait lui. Et celui qui le dit, cet appel mérite inshallah l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu sors à la mosquée, quand tu vas à la mosquée sur le chemin, tu fais du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Allahumma ja'al fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa ja'al fi sam'i noura, wa ja'al fi basari noura, wa ja'al khalfi noura, wa amami noura, wa ja'al min fawqi noura. Allahumma a'tini noura, Allahumma a'tini noura. Donc, notamment pour les prières nocturnes, quand tu viens à Salat al-Fajr ou Salat al-Isha. Donc les prières nocturnes, tu demandes à Allah de t'envelopper dans sa lumière, sa guidance. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala représente sa guidance, représente sa guidance. D'accord ? Parce que même si tu as des yeux qui voient 10 sur 10, quand tu es dans l'obscurité, ben, tu ne vois rien. Même si ton cerveau fonctionne bien, mais quand tu n'as pas la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah, ben, tu ne vois rien. C'est pour ça que tu demandes à Allah de mettre dans ton cœur la lumière d'Allah, la guidance d'Allah. Dans ta langue, la guidance d'Allah, que tu parles avec ce que Allah aime. Dans ton oreille, dans tes oreilles, la guidance et la lumière d'Allah. Dans tes yeux, la lumière d'Allah. Devant toi, la lumière d'Allah. Derrière toi, la lumière d'Allah. En dessus de toi, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah te donne la lumière. Parce qu'Allah se décrit dans le Coran al-Karim, parmi les noms d'Allah, Al-Nur. Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fi misbah. Al-misbah fi zujaja. الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se décrit parmi les noms d'Allah An-Nur. Donc on demande à Allah de nous donner de sa lumière, et la lumière représente la guidance. Quand tu arrives à la mosquée et tu veux rentrer à la mosquée, tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Donc les invocations alhamdulillah sont généralement écrites devant les mosquées, comme ça on n'oublie pas. Donc اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما اللهم اغفر لي جميع ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يا الله pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Parce que la rahma d'Allah est à l'intérieur de la mosquée. D'accord, quand tu rentres à la mosquée, tu cherches la rahma d'Allah, donc tu demandes à Allah de t'ouvrir les portes de sa miséricorde. Et généralement, on n'a pas le droit d'appeler à l'intérieur de la mosquée, de demander, d'élever la voix au-delà du nécessaire. Au-delà du nécessaire. Et celui qui élève la voix dans la mosquée, il ne respecte pas les règles de la mosquée. Notamment pour certains qui viennent à la mosquée, ils élèvent la voix, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, faites-moi. Et ça, normalement, on ne doit pas le faire à l'intérieur de la mosquée, on ne doit pas élever la voix. On vient voir le responsable de la mosquée, on lui demande, voilà, j'ai un besoin, est-ce que tu peux prendre la parole et le dire, et après attendre à l'extérieur. Les gens n'ont pas le droit d'élever la voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même, quand vous entendez quelqu'un élever la voix, il cherche quelque chose à l'intérieur de la mosquée, il élève la voix, tu lui dis, la raddaha Allahu alayhi. Tu lui fais une invocation contre ce qu'il cherche. Si par exemple quelqu'un a perdu quelque chose, il vient à la mosquée, ah, j'ai perdu quelque chose, il commence à crier, alors que la mosquée n'est pas faite pour ça. La mosquée, c'est un lieu de sérénité, de rahma, d'adoration, d'accord. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man yanshudu dallatahu fil masjid faqulu la raddaha Allahu alayhi. Donc celui qui vient chercher quelque chose à l'intérieur de la mosquée en élevant la voix, donc il cherche, tu lui dis, la raddaha Allahu alayhi. Tu cherches ça, ben qu'Allah ne t'amènerait jamais ce que tu cherches. Parce que il n'a pas choisi le bon lieu pour faire cet appel-là. Et donc, cette règle, elle est valable pour tout le reste. Celui qui vient chercher l'argent, il demande aux gens, il se lève, il commence, les gens sont en train de faire tesbih, et lui est en train de raconter toute une histoire qui est à 99% inventée, bien sûr. Rare les gens qui viennent à la mosquée crier et qui sont véridiques. Rare, très rare. Et c'est par expérience que je parle. On en a eu je ne sais pas combien de cas, des gens qui viennent crier à la mosquée, quand tu vérifies un peu, tu trouves que c'est à 99% des menteurs. Ah, j'ai mon fils qui fait que ça, et ainsi de suite. Ils inventent des histoires bien ficelées dans l'objectif de... Ah, ils reviennent chaque année, parce que c'est les mêmes. On les retrouve ici dans cette mosquée, et après ils vont dans l'autre mosquée, et ainsi de suite. Et ils font de la mendicité un métier. Et si on leur donne à chaque fois, ben ça va être pareil. Donc ils vont se dire, ben c'est bon. Khabza, donc on vient à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il faut pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, mais il faut, faut s'assurer. Parce qu'une sadaqa que tu donnes à quelqu'un qui ne mérite pas, en réalité, tu as privé quelqu'un qui mérite. Tu prends une sadaqa. Allah accepte. Toi, c'est ton intention. Si tu donnes une sadaqa, Allah accepte. Quel que soit. Mais c'est ton devoir de t'assurer que ta sadaqa a été donnée à la bonne personne. C'est ton devoir. Si c'est une sadaqa vis-à-vis d'Allah, pour qu'elle joue un rôle et qu'Allah. Il faut que tu t'assures que cette sadaqa arrive dans la main de la bonne personne. Si tu ne fais pas ce devoir, tu donnes la sadaqa à n'importe qui. D'abord, tu aides, et tu aides les gens à devenir des mendiants professionnels. On les a toujours ici, dans toutes les mosquées. Dans toutes les mosquées, savent que les musulmans sont généreux, qu'ils donnent. Ça, c'est alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Maintenant, subhanallah, demande autour de toi. Il y a des gens qui n'osent pas venir, qui n'osent pas demander, qui sont dans le besoin. Les 5 euros que tu donnes à cette personne, peut-être tu le donnes à quelqu'un d'autre, et tu l'aides énormément. Mais ces personnes qui font de la mendicité un métier, je suis certain qu'ils font 200 à 300 euros par jour. Et donc, quand ils ont cette habitude-là, ils disent, je n'y arrêterai jamais. Ça y est, je viens m'asseoir à côté de la mosquée une petite heure et j'invente une histoire où... Donc, « Man yanshudu dhalatahu fil masjid wa qul lahu la raddaha Allahu alayhi » Et quand tu fais ton roku, quand tu arrives à la mosquée et quand la prière commence, quand tu fais ton roku, il y a une invocation que tu dois apprendre. Bien sûr, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Ici, tu as le temps, tu dis Allahumma laka raka'at, wa laka khasha'at, wa bika amant, wa laka aslamt, wa alayka tawakkalt, anta Rabbi, khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. C'est une très belle invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, notamment quand c'est des prières de la nuit, quand des prières qui durent un peu longtemps, parce qu'aujourd'hui je ne crois pas qu'on pourra dire toute cette invocation, mais au moins Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, Allahumma laka raka'at wa laka khasha'at wa bika amant wa laka aslamt. وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. C'est bien d'apprendre ces invocations et de les dire de temps en temps. Bien sûr, on ne pourra pas les dire tout le temps, toutes les prières, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. L'imam, quand on fait la prière derrière l'imam généralement, il respecte une règle, c'est que derrière lui, il peut y avoir des gens qui sont malades, des gens qui n'ont pas le temps, des gens qui ont quelque chose à faire après la prière. Donc l'imam doit s'arrêter quand il dit Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, fa rukou 3 fois et après il se lève. Généralement c'est ça. Et donc, parce qu'il peut pas, ça peut pas. Une prière avec un groupe, avec des gens, on doit être. L'imam doit faire les choses d'une manière. Qui arrange la majorité. وإذا رفع رأسه من الركوع quand quelqu'un lève la tête dans le recours, qu'est-ce qu'il dit سمع الله لمن حمده quand il est seul il dit سمع الله لمن حمده quand il est avec l'imam dit سمع الله لمن حمده lui il dit ربنا ولك الحمد après il dit حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه après il dit ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا كذلك من أدعية الإنسان يحافظ عليها بعد القيام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد خاصة إذا كان يصلي وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد تهضر مع ربي سبحانه وتعالى أنت يا ربي أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق حاجة قالها العبد هو الحمد لله وكلنا لك عبد يا الله كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يعني إذا كان ربي حاب حاجة فلا يمنعها أحد اللهم لا مانع لما أعطيت إذا ربي قدر لك ديك حاجة والله لو اجتمعت الدنيا الجن والإنس وكل من على الأرض أن يمنعوك والله ما منعوك ما قدره الله لك ولا معطي لما منعت وإذا كان ربي ما أعطاكش حاجة والله لو جريت الليل والنهار لو عاونك فيها كل الناس والله لن تأخذها إلا إذا كتبها الله لك إذا أعطاها الله لك ستكون لك هذه رفعت الأقلام وجفت الصحف اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الإنسان معنا الحرص نتاعه لا ينفعه فالإنسان طبعا يؤدي الأسباب يفعل ما يأمره الله به قالنا ربي أعملوا تعمل قالنا ربي أدعو ندعو قالنا ربي ديروا الأسباب تداوم نتداوم هذه قالها ربي تداوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل دواء إحنا نديروا الأسباب ولكن هذه الأسباب لا تعرف باللي أن كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى لازم تدير الأسباب ولكن يجب أن تعلم أن لن ينفعك الجد مع الله سبحانه وتعالى. Donc Allah سبحانه وتعالى nous a demandé de donc cette invocation لا مانع لما أعطيت. Donc personne ne peut donner, personne ne peut interdire ce que toi tu as donné, يا رب. ولا معطي لما منعت. Personne ne peut nous donner ce que toi t'as interdit. Si Allah te désigne quelque chose, Allah dit ça c'est pour toi, et Abdi, sache que même si toute la communauté, tous les humains, tous les djinns, toute la création s'unissait pour te donner ça, pour t'interdire ça, ils ne pourront pas t'interdire parce que Allah, le créateur du monde, te l'a désigné. Et le contraire, si Allah t'a enlevé quelque chose, et qu'Allah ne veut pas que quelque chose soit pour toi, même si tu cours jour et nuit, même si tu fais tout, même si tu es aidé par la puissance la plus grande dans ce monde, tu ne l'auras pas parce qu'Allah n'a pas décidé pour toi, il n'a pas décidé pour toi cette chose-là. Le hadith dit « وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ » Et même la personne, quelle que soit sa motivation, quelles que soient ses œuvres pour avoir quelque chose, ça ne servira à rien si Allah n'a pas décidé cette chose pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Quand on dit ça, les gens ils vont dire, mais donc ça ne sert à rien d'agir. Non, mais il faut agir. Allah nous a demandé de travailler. On doit travailler. Allah nous a demandé de se soigner. On doit se soigner. Il ne faut pas dire, ça vient comme ça. La guérison, si Allah a décidé pour moi la guérison, que je me soigne ou pas, c'est pareil. N'est-ce pas? Il y en a qui vont penser comme ça. Donc ils vont tester Allah. Et ce n'est pas à nous de tester Allah. C'est Allah qui nous éprouve. Donc, ce n'est pas toi qui testes Allah. Allah te demande de te soigner. prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, aucune maladie sur terre pour laquelle Allah n'a pas fait descendre un remède. Toute maladie sur terre, Allah lui a donné un remède. Donc, il dit cherchez-le. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Même si aujourd'hui il y a certaines maladies, on n'a pas trouvé encore, mais Allah n'a pas donné, n'a pas créé subhanahu wa ta'ala une maladie sans lui donner un remède. Sauf une seule, qui est le haram, la vieillesse. La vieillesse, la râle, on est tous quand tu. Et donc, cherchez la guérison, soignez-vous, mais soyez certains que ce n'est pas votre motivation, ce n'est pas vos actions qui vont agir, c'est le destin d'Allah qui va agir. Et quand tu te prosternes, فقل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Quand tu fais sujoud, tu dis اللهم لك سجدت. Oh Allah, c'est pour toi que je me prosterne. وبك آمنت, en croyant en toi. ولك أسلمت, je suis musulman, c'est pour toi que je me confie, hein, je m'abandonne. L'islam, c'est le fait de s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laka aslamt sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwara. Mon visage se prosterne pour celui qui l'a créé et qui l'a formé. Hein, tu ne te prosternes pas pour n'importe qui, tu te prosternes pour celui qui mérite, Allah, ton créateur. Donc, cette invocation nous rappelle, c'est que Allah est notre créateur. Et je me prosterne pour mon créateur, celui qui mérite. Et donc, je ne me prosternerai jamais pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui m'a créé, qui a créé mon visage et qui l'a formé. Celui qui a formé mon visage et qui lui a donné l'œil, les oreilles et la vue. Allah. تبارك الله أحسن الخالقين. Qu'il soit glorifié Allah, le meilleur des créateurs, des créatures, des créateurs subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui crée subhanahu wa ta'ala. Même si Allah dit أحسن الخالقين, ben, c'est juste pour eux. Allah est le seul créateur en réalité. Et tout ce que les autres font, c'est que reproduire ce que Allah nous a donné comme possibilité de création. L'être humain ne crée rien de ses propres moyens. Et quand tu termines la prière, tu dois dire Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Oh Allah, tu es la paix, de toi émane la paix, tabarakta, que tu sois béni, ya dal jalali wal ikram, celui qui a la noblesse et la générosité. Tabarak ta'ad al-jalal wa l'ikram. Bien sûr, ces invocations, on doit les apprendre en arabe. D'accord, parce que ça, le sens est profond et on doit les apprendre en arabe. Pour les dire en arabe, on a plus de récompenses. Mais c'est juste pour vous donner le sens. Bien sûr. Istighfar, trois fois. Tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah trois fois. La première chose, c'est astaghfirullah trois fois. Allahumma anta salam wa aminka salam wa tabarakta ya dal jalali wal ikram. Il y a une autre invocation, c'est Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aide-moi à me rappeler de toi, ala dhikrika wa ala shukrika, la reconnaissance, d'être reconnaissant envers toi et aide-moi à mieux t'adorer. Aide-moi à mieux t'adorer. Et après, tu fais Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et après, après la prière obligatoire, il est recommandé de lever les mains et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs hadiths, hein, presque 11 hadiths qui rapportent que après la prière, après les prières obligatoires, il y a une recommandation de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. ta'ala, que ça fait partie des moments où Allah accepte les invocations. Tu viens de faire ta prière obligatoire, ben ne rate pas cette occasion, si tu as le temps bien sûr de faire une invocation. فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْمَجْلِسِ وَأَرَدْتَ دُعَاءً يُكَفِّرُ لَغْوَ الْمَجْلِسِ فَقُلْ. Et quand tu es assis avec certaines personnes et que tu veux te lever, tu veux sortir de la mosquée, tu es en train de discuter avec les frères, ben, avant de sortir, avant de quitter ton assemblée, tu dis سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. Trois fois. Et même si pendant cette assemblée tu as dit quelque chose, tu as prononcé une parole qui était mal placée, Allah te la pardonne. Donc grâce à cette invocation, trois fois, Subhanakallahumma wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quelle belle invocation qui permet de se faire pardonner des mauvaises paroles, d'accord. Et même si, quand tu fais une intervention, peut-être on est des humains, peut-être que je me suis trompé, j'ai mal prononcé un verset, j'ai mal prononcé un hadith, j'ai dit quelque chose qui n'était pas 100% véridique, ben, cette invocation, Inch'Allah, efface ses erreurs. وَإِذَا وَجَدْتَ وَجَعًا فِي جَسَدِكَ. Et quand un jour tu trouves, tu as mal quelque part, nous, quand on a mal quelque part, ben, il faut aller voir faire l'IRM, il faut aller faire les analyses, il faut aller voir le médecin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'avant tout ça, tu dois faire autre chose. C'est demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu mets la main là où t'as mal, d'accord, t'as mal à l'épaule, tu mets la main à l'épaule et tu dis أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Sept fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de le dire sept fois. C'est dans Sahih Muslim, ce hadith. Donc, là où tu as mal, la première chose quand tu as mal quelque part, c'est de penser à cette invocation. Tu mets la main, la première chose, avant de penser au médecin, avant de dire il faut que j'aille voir, la première chose, tu dis d'abord je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu le demandes plusieurs fois. Dès que tu sens que tu as mal quelque part, alhamdulillah, on a une invocation très simple. Tu mets la main là où tu as mal au ventre, tu mets la main au ventre. Et tu dis A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. La meilleure invocation, c'est celle que tu fais toi-même pour toi-même. Ou que tu fais toi pour tes enfants. Il y en a qui cherchent. Est-ce que l'imam peut venir pour me faire des invocations? Est-ce que... Mais il n'y a pas mieux que toi-même. Pour tes enfants, pour ton épouse, il ne faut pas chercher ailleurs. Alhamdulillah, le dua, il est accessible à tous. Le Coran est accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'une autre personne. Toi-même, A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Tu prends le temps sept fois, tu le dis sept fois. Ici, tu as toujours mal, refais-le. Refais-le. Et Inch'Allah, c'est une invocation très efficace. Et après, tu peux dire aussi Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Tu peux dire اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Là aussi, tu le dis sept fois. Tu lis la Fatiha sept fois. Ça aussi, c'est une recommandation. C'est la meilleure ruqya que tu peux faire pour toi-même ou pour tes enfants. T'as besoin de personne. T'as même pas besoin d'aller voir quelqu'un pour lui payer 50 euros pour te faire la ruqya. La ruqya, elle est accessible à toi. Donc, tu le fais pour toi-même. Et le Coran, il est efficace pour en lui-même. Il a la bénédiction. Donc, aujourd'hui, on voit les gens chercher, ils donnent plus d'importance à la personne qui fait la ruqya que à la ruqya elle-même, qui est le Coran al-Karim et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on a vu se développer des gens qui se spécialisent pour la ruqya, alors que, subhanallah, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde.
Une commerce.
Exactement, ça devient... Malheureusement. فإذا أصابك كرب فقل quand tu es touché par la tristesse, par un souci qui te pèse, tu dois dire لا إله إلا الله العلي الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. Ça c'est aussi متفق عليه ce hadith. Il est dans le Bukhari et Muslim. Quand tu es touché par la tristesse, par un souci, ben répète cette phrase. La ilaha illallah al-aliyul halim. Al-halim. Le doux, le magnanim. Allah. Al-ali, al-halim. Je demande à Allah, ya halim, dissipe mon souci. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbul samawati al-sab'i. Wa rabbul arsh al-karim. Cette version, elle est dans le Bukhari et Muslim. Donc, pour le corps, on a une invocation. Pour le cœur et la tristesse et l'esprit, on a une invocation. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé. Hein? Tout ce dont on a besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des invocations. Hein? Toute ta vie, depuis ta naissance, hein? Avant même ta naissance, même quand l'homme s'approche de sa femme, hein? Pour donc avoir des enfants, ben il a une invocation. Allahumma jannibni ash-shaytan wa jannibni ash-shaytan ma razaqtan. Donc avant même que ton enfant soit conçu, tu as une invocation, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'éloigner ash-shaytan et d'éloigner ash-shaytan de ce que Allah va concevoir dans le ventre de ton épouse. D'accord? Donc la naissance, on a des invocations. Quand on vit tous les jours, on a des invocations. Avec la mort, on a des invocations. Comme on a dit, la journée, toute la journée, on a des invocations. Le matin, quand on se lève, le soir, quand on dort, quand on veut boire de l'eau, quand on veut manger, quand on veut... Toute la vie d'un musulman, alhamdoulilah, elle est cadrée. Alhamdoulilah. On est en permanence en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est en permanence en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire, ah maintenant c'est pour Allah et ça c'est pour moi. Nous on a notre vie, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Regardez ce verset comme il est magnifique. Il dit, c'est un verset, إِنَّ, certes, إِنَّ صَلَاتِي. صَلَاتِي c'est quoi? C'est ma prière. وَنُسُكِي, وَنُسُكِي c'est quoi? C'est mes actes de dévotion. C'est généralement un nah. Un nusuk, c'est quand tu sacrifies. D'accord? Ou quand tu fais le hajj. Le hajj, on appelle nusuk aussi. D'accord? Le pèlerinage. Donc, un nusuk, c'est tout ce qui est les actes d'adoration d'une manière générale. Mais en particulier la salat. Ou nusuki. Très bien. Lillahi rabbil alamin, c'est normal. C'est normal que ma salat soit lillah. Que mon nusuk soit lillah. Tu ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Maintenant. Regardez ce que le verset dit. Le verset ne dit pas قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Non. Dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. C'est-à-dire, et ma vie et ma mort. Même ta mort doit être orientée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vie, ça veut dire quoi ta vie? Depuis que tu te lèves le matin jusqu'à que tu te couches le soir. Et même pendant ton sommeil. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois diriger ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala dans tout. Alhamdulillah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pour nous un guide. Et vivez ce lien permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَرَدْتَ النَّوْمَ فَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكِ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكِ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكِ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكِ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكِ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. متفق عليه. حديث rapporté par البخاري ومسلم. Quand tu veux dormir, hein, tu peux dire بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Et tu peux dire aussi ce hadith muttafaqun alayhi. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. Il est recommandé de dormir en ayant les ablutions, les petites ablutions. Parce que quand tu fais des ablutions, le sommeil, c'est la petite mort, on l'appelle la petite mort. D'accord ? Tu meurs en réalité. Quand tu dors, tu meurs. Ton âme quitte ton corps. Et ton âme, quand elle est purifiée par les ablutions, c'est ton corps qui se purifie par les ablutions, bien sûr. Mais les ablutions n'ont pas un effet que sur le corps. C'est pas que tes mains que tu laves. C'est pas les mains et le visage, bien sûr. Mais les ablutions, c'est un état de pureté. C'est pour ça que tu peux faire la prière. D'accord ? C'est quand tu as tes ablutions, tu fais l'eau, tu peux faire la prière. D'accord ? Parce que ton corps est propre, mais ton âme est prête pour la prière. Donc, quand tu fais tes ablutions avant de dormir, ben, si jamais tu meurs, et même sans mourir, ton âme, quand elle quitte ton corps en état de pureté. Elle n'est pas en état d'impureté. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Donc cette invocation, Allahumma aslamtu nafsi ilayhi. Oh Allah, j'abandonne mon nefs à toi. J'abandonne mon nefs dans le sens, ça y est, mon corps va, mon âme va quitter mon esprit, mon âme va quitter mon corps, ben je te la confie à Allah. وَوَجِّهْتُ وَجِّهِي إِلَيْكِ et je dirige mon visage vers toi. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكِ et je te confie toutes mes affaires. وَفَوَّضْتُ التَّفْوِيض c'est quand tu donnes à quelqu'un une délégation. Tu délègues à Allah toutes tes affaires. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكِ mon dos, أَلْجَأْتُ ظَهْرِي c'est protège-moi, ya Allah, devant moi et derrière moi. Rahbatan wa rahbatan ilay. Je le fais par amour et par crainte. Je le fais par amour et par crainte. On doit aimer Allah et craindre son châtiment. Donc moi, quand je fais ça, je le fais par amour et par crainte. La manja'a wa la manja'a minka illa ilay. Il n'y a aucun refuge et aucun secours de toi que vers toi. Si tu veux fuir Allah, tu vas où? Tu vas où? Fuir Allah, Allah nous dit firru ilallah. Firru ilallah. Ça veut dire quoi? Fuyez vers Allah. Si tu as peur d'Allah, il ne faut pas fuir ailleurs parce que tu ne gagneras pas. Si tu as peur d'Allah, si tu as la crainte d'Allah, fuis vers lui. Il n'y a que Allah, subhanahu wa ta'ala. Toute autre chose, quand tu as peur de quelque chose, n'importe quelle chose dans ce baron, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis, tafir. Et tu tafir où? Ben vers l'autre sens. Si cette chose elle est là, toi tu vis au contraire, tu vas ailleurs. Pour fuir la chose, il n'y a que Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur du monde. Quand tu as peur de lui, ta seule solution c'est de fuir vers lui. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez vers Allah. Si vous êtes sincère dans votre crainte, fuyez vers lui. Parce qu'il n'y a que vers lui que tu trouveras la sérénité et la protection. لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. Je ne peux pas m'échapper, je ne peux pas trouver un secours, ni un refuge de toi que vers toi. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ. Je crois en ton livre que tu as révélé, le Coran. Wa nabiyyika alladhi arsalta amantu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète que tu as envoyé. Et si on le dit tout le temps, cette parole-là, ben quand on sera dans la tombe, que les anges viennent nous demander, man rabbo, qui est ton Seigneur? Et Allah, systématiquement, tu le dis tout le temps avant de dormir. Ma kitabuk, le Coran, ma dinuk. Islam, man nabiyuk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإذا استيقظت من نومك عند الصباح فقل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث متفق عليه. Quand tu te lèves le matin, tu, après ton sommeil, tu dois dire la première chose à laquelle tu dois penser, c'est Alhamdulillah. Dès que tu te lèves, pense à Allah. Allah t'a donné, t'a redonné ton âme. Allah aurait pu garder ton âme. Hein? Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit que la, le sommeil c'est la petite mort. Tu dis à Allah, lakalhamd, je te remercie, je suis reconnaissant. Toutes mes louanges sont à toi, ya Allah. Tu m'as redonné la vie après la mort. Wa ilayhi an-nushur. Et vers lui sera an-nushur. An-nushur, c'est quoi? C'est la résurrection. Hein, la résurrection. Quand tu seras ressuscité et tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Tu peux aussi dire Alhamdulillah, alladhi radda alayya ruhi wa adina li bi dhikri. Ça aussi, c'est une invocation. Le matin, quand tu te lèves, Alhamdulillah, alladhi radda alayya ruhi. Ruhi, elle n'était pas là, elle est maintenant là. Radda alayya ruhi. Wa adina li bi dhikri. Il m'a donné encore la chance, une autorisation, une permission, une journée de plus pour l'invoquer, pour prononcer son nom, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une très très belle invocation. Alhamdulillah, alladhi radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Apprenez, elle est simple cette invocation. Apprenez cette invocation à vos enfants. Hein, les enfants, peut-être, ils ne vont pas apprendre toutes les invocations qu'on vient de dire. Mais pour dormir, on va leur dire, eh ben avant de dormir, dites Bismika Rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'u. Hein? Juste ça. Et quand ils vont grandir un peu, فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَغْفِرْ لَهَا مَا يَحْفِرْشَ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَحْفَرْهَا بِمَا تَحْفَرُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Et apprenez à vos enfants, quand ils se lèvent le matin, dès qu'ils se lèvent le matin, tu viens le, ou si tu viens le réveiller, tu lui dis Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Pour dormir, il peut dire Bismika Rabbi amutu wa ahya. Tout simplement. Ça aussi, c'est assez simple pour les enfants. Bismika. L'essentiel, c'est de leur apprendre le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que je vais dormir, ben, je prononce une invocation. Les plus simples et les plus courtes possibles, pour, dans un premier temps, et petit à petit, ils vont grandir et ils vont apprendre d'autres invocations. Donc, ces invocations qu'on vient de dire, ben, il faut les écrire. Hein, subhanallah, c'est pas compliqué. Tu ne les connais pas par cœur, ce n'est pas un problème. Mais écris sur un papier, tu écris l'invocation du soir, tu écris 5 ou 6 invocations que tu vas apprendre le mois, pendant un mois, et tu dis, ben, je ne sais pas, je ne les connais pas par cœur, ben, je vais sortir mon papier avant de dormir, je lis. Alhamdulillah. Et sachez, je suis certain, au bout d'un mois, vous avez appris par cœur. D'accord? Tu ne peux pas dire, je ne les connais pas, c'est trop complexe. Oui, écris, subhanallah. Tu prends un stylo, tu prends, et si tu n'arrives pas à écrire en phonétique, mais tu verras que la prononciation, elle est importante, d'accord? Tu prononces bien, ou tu prends une vidéo, quelqu'un qui prononce bien, et tu prononces avec lui. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Tu as le papier juste à côté de ton oreille, quand tu te lèves, eh ben, alhamdulillah, il y a le papier ici, faites-le. Parce que sans cette méthode, vous n'allez pas apprendre. Hein? Les invocations, pour les apprendre, il faut les écrire et les répéter. Et c'est comme ça. Il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas dire je vais l'apprendre d'un seul coup, allez, je vais rester comme ça. Non, l'idéal, c'est de les apprendre dans le temps. Dans ta journée, par exemple, pour ce mois, je vais apprendre 5 invocations. L'invocation de Adhan, l'invocation de avant de dormir, l'invocation du sommeil quand je me lève et l'invocation par exemple celle d'un mal dans le corps et j'apprends ces invocations en les écrivant et je prononce. Quand on le fait comme ça, bah, au bout d'un mois ou deux mois, bah, c'est bon, c'est appris et ça devient un réflexe par la suite. Ça devient un réflexe. Alhamdulillah. فصل الدعاء والقضاء. فإذا قلت فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟ السؤال هذا يطرح. Donc c'est une question, elle est toujours posée. À quoi sert l'invocation alors que le... Il y a aussi le petit livre là, Hisn al-Muslim, des livres comme ça qui sont très très bien et qu'on peut les prendre et les lire. Ça aussi, c'est une bonne.
Cheikh, il y a le livre d'un Muslim, il y a toutes les invocations.
Exactement, oui, je viens de le voir, exactement. Très bien. Hisn al-Muslim, il est très très bien. Mashallah. Vous avez des livres, des petits livres comme ça, où c'est résumé, où
te donne. De poche.
Voilà, les livres de poche. Voilà, comme ça, alhamdoulilah, ils ont fait un travail extraordinaire. Donc, quand tu poses la question, quelle est l'utilité de faire les invocations, alors que vous nous dites toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Le destin existe et qu'on est éprouvé dans cette vie, ben ça sert à quoi d'invoquer alors que les épreuves, c'est des épreuves, on doit les accepter, on doit. Donc, quel est le lien entre Ad-Du'a ou Al-Qadha? Al-Qadha, c'est le décret de Dieu, il a le destin. Et Du'a, ben, est-ce que. Quelle est la place de chaque. Donc, fa'lam, sache, anna min al-Qadha'i raddu al-Bala'i bid-Du'a. Sache que ça fait partie de ton destin qu'Allah éloigne de toi les épreuves par l'invocation. Ça fait partie de ton destin. Le destin, c'est pas juste uniquement tout ce que tu fais dans cette vie fait partie de ton destin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écrit que si tu fais cette invocation, cette épreuve te sera épargnée. Et si tu ne fais pas cette invocation, tu seras touché par cette épreuve. C'est écrit. Ça aussi, c'est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Le destin, c'est pas juste quelque chose, on est obligé de faire quelque chose tout le temps. Non, on est, le destin, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et Ad-Du'a fait partie de ton destin. Donc, Ad-Du'a, huwa min al-qada. Ad-Du'a min al-qada. Fad-Du'a, sababun li radd al-bala. Kulluna ya'lamu dhalik. Ad-Du'a, c'est une cause qui peut éviter et repousser un bala. Bala, c'est une épreuve. Wa istijlabun lirrahma. Ad-du'a peut attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna at-tirs sababun liraddi as-sahm. At-tirs, un bouclier. D'accord, quand tu mets un bouclier. D'accord. Et tu commences, et tu es dans une guerre. Et on tire sur toi avec des flèches. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les flèches vont taper et se casser. Ça ne va pas te toucher.
Protéger.
D'accord? Ça va te protéger. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un d'intelligent, de raisonnable, qui te dit non, j'en ai pas besoin. Ah, je prends comme ça et je vais faire la guerre sans me protéger. Est-ce que vous le trouvez raisonnable?
Ben, non, non, tu vas. C'est Zorro, lui.
Ah, oui, exactement. Mais il te dit moi, je fais confiance en Dieu. D'accord? Je fais confiance en Dieu et je me. Non, c'est pas comme ça. Tu es en train de tester Allah. C'est toi qui testes Allah ou c'est Allah qui te teste? Qui éprouve l'autre? C'est Allah qui nous éprouve. Ah, vous avez des gens, et ça c'est un manque de foi, qui veulent tester Allah. Et, ah, est-ce que Allah est capable de me protéger alors que moi j'ai rien? Mais Allah t'a dit, protège-toi. Et si tu te protèges, Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Ne teste pas Allah. Les épreuves, c'est Allah qui nous les donne. C'est pas toi qui vas décider d'éprouver Allah subhanahu wa ta'ala, l'ayyadu billah. Donc c'est pas notre. Donc n'importe quelle personne sensée, ben elle va prendre les causes, elle va mettre s'habiller correctement et il se peut et malgré tout. Même si tu as mis deux boucliers, Allah peut-être décide que la flèche t'arrive ici et que. D'accord? Et parfois aussi, Allah peut décider que tu n'as même pas de bouclier et Allah te protège. Ça aussi, c'est possible. Allah te donne avec la cause et sans la cause. Hein? Mariam, alayhi salam. On sait tous que pour avoir un enfant, la cause, c'est un homme et une femme. On le sait tous. D'accord? Ça, c'est la cause. Allah donne avec la cause. Quand un homme se marie et qu'avec sa femme, ils peuvent avoir un enfant. Ça, c'est avec la cause. Allah donne avec la cause. Mais Allah donne sans la cause. D'accord? Tu trouves Mariam alayhi salam, il n'y avait pas de cause. L'homme n'était pas là, n'avait pas de mari. Mais Allah a décidé de lui donner, il lui a donné sans la cause. Et tu peux avoir la cause, Allah décide de ne pas te donner. Et il ne te donne pas. Tu trouves un homme et une femme, hein, mariés et tout, ils veulent avoir des enfants et Allah dit non. Subhanahu wa ta'ala. Il y a la cause, mais la décision d'Allah n'arrive pas.
Il y en a qui comptent trop sur la cause. C'est du shirk.
La cause doit rester la cause. D'accord? Doit rester à sa place. On doit la faire, comme j'ai dit, on doit se soigner et faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne mets pas tout mon poids sur la cause. Il y en a qui, voilà, que la cause, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de toutes choses. Celui qui fait fonctionner la cause ou ne fait pas fonctionner la cause subhanahu wa ta'ala.
C'est comme le groupe de musulmans quand ils ont fait la guerre, ils ont dit c'est bon, on est nombreux, voilà. On est armés, on va gagner cette guerre. Avec la cause. Et Allah, il leur a fait perdre la guerre.
Exactement.
Parce qu'ils comptaient sur leur cause.
Alors que quand ils étaient à Badr, ils étaient trois fois moins nombreux, ils avaient la foi, ils avaient confiance en Dieu, ils ont gagné. Et dans une autre bataille, les musulmans étaient deux fois plus nombreux, voire plus. Dans votre nombre vous a un peu satisfait, 12 000.
Ils étaient certains. Avec leur nombre de soldats.
Exactement. Et Allah les a approuvés. La cause, elle est là pour gagner. Mais Allah n'a pas voulu au début. Alhamdulillah. Après, Allah leur a donné la victoire par la suite.
Avec tout bas.
Exactement. Kama anna tirsa sababun li raddi as-sahm. Quand tu mets le bouclier, c'est une cause pour repousser les flèches. D'accord ? Ad-du'a, c'est une cause, c'est un bouclier pour repousser les épreuves et les fitnas, les malheurs de cette vie. Ou le ma'u, sababun li khurujin nabat. Imagine que tu vas planter, là, en ce moment les gens plantent des tomates par exemple, tu vas planter des tomates et tu dis, je laisse comme ça, hein, je ne les arrose pas. Est-ce que un jour après tu t'attends que ces tomates arrivent? C'est certain, ça n'arrivera pas. Parce que Allah t'a demandé d'arroser. Et donc, celui qui s'attend que le blé sort de terre alors qu'il n'a jamais semé, qu'il n'a jamais rien fait. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un dit, moi j'attends ici dans cette terre-là que le blé sort et que j'aurai du blé et que je peux... Alors qu'il n'a jamais semé et qu'il n'a jamais cultivé, qu'il n'a jamais... Non, c'est pas normal. Donc, le dîme, c'est exactement pareil. Dans la religion, c'est exactement pareil. Si tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, si tu veux agir, si tu veux que les choses arrivent, ben agis. Et والمرء سبب لخروج النبات من الأرض فكما أن التير سيدفع السهم فيتدافع فكذلك الدعاء والبلاء يتعاقب. On a un hadith de Prophète صلى الله عليه وسلم qui nous dit, t'as un malheur qui descend. C'est un décret de Dieu. Le malheur était écrit pour toi. T'as une moussiba qui allait te toucher. Tu vas faire un accident tel jour, à tel instant. C'est écrit. Et le hadith, il nous dit, ça descend. Le décret descend. Et à un moment donné, toi, t'as fait une invocation. Qui n'a peut-être pas une relation avec cette... T'as demandé à Allah de te protéger, de protéger tes enfants. Et dua, cette dua, elle est sincère et forte, elle monte. Il dit, ben les deux vont se bagarrer en quelque sorte. Il y aura une bagarre, un conflit entre les deux, et le plus fort va gagner. Si ton invocation elle est forte et elle est faite avec sincérité, ben elle va gagner, elle va repousser de toi le malheur. Il y a beaucoup de malheurs qu'Allah nous a fait éviter par grâce à nos invocations. Et on ne sait même pas nous que cette invocation que j'ai faite, à ce moment-là, moi je me dis, j'ai fait une invocation et Allah n'a même pas répondu à mon appel. Et toi, tu ne sais pas que Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné quelque chose, que tu n'étais même pas au courant de ce qu'il allait t'arriver. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'heure.
Encore une demi-heure.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.